de foot international avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International aujourd'hui, vendredi. Très heureuse de vous retrouver tous et surtout une nouveauté dans ce Café des Sports. Aujourd'hui, ce Café des Sports est filmé. Vous pouvez nous suivre en Facebook Live, donc sur la page Facebook de RFI et de Radio Foot International. Comme durant la Coupe du Monde, vous vous en souvenez, on l'avait fait souvent, et bien nous allons le refaire pour le Café des Sports qui vous sera désormais dans vos oreilles et aussi dans vos yeux en images. Nos invités sont là et on commence par ce Café des Sports avec nos invités, notre duo habituel. Ils sont là eux aussi au rendez-vous. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous les téléspectateurs.
Et les auditeurs quand même, parce que ils sont plus nombreux. À ce jour.
Ils sont plus nombreux, mais on fait d'abord la cour aux nouveaux arrivants.
Oui. Et arrivantes, j'imagine. Xavier Barré, bonjour.
Oui, bonjour Annie. Je ne sais pas pourquoi Rémi Ngono exclut d'entrée les internautes féminines ou les téléspectatrices.
Donc,
moi, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs et auditrices et téléspectatrices.
Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour aux internautes et puis aux auditeurs, bien sûr.
À tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Alejandro Valente, bonjour.
Je suis là, bonjour.
Alors, il y a toute une équipe, je vous donnerai leur nom tout à l'heure, qui nous aide justement à ce Facebook Live. Aujourd'hui, au sommaire des débats de ce Café des Sports, qui est le meilleur joueur africain de la Ligue 1 cette saison? Une première indication aujourd'hui donc dans l'émission avec la révélation du trio qui sera sur le podium du prix Marc-Vivien Fouet 2019. Trois noms parmi lesquels se cache donc le nom du futur lauréat qui sera révélé le 20 mai. Et de 4 clubs anglais en finale des Coupes européennes cette saison. Chelsea et Arsenal se sont qualifiés hier soir en finale de la Ligue Europa aux dépens de Francfort et Valence. Jamais les équipes de Première Ligue n'avaient réussi ce coup de force. Une prouesse logique ou exceptionnelle? Faut-il en déduire que le championnat anglais est le meilleur championnat d'Europe ou bien une vitrine pour de gros investisseurs étrangers? Nous nous poserons la question. Lionel Messi a-t-il perdu le Ballon d'Or au moment où le Barça était éliminé de la finale de la Ligue des Champions par les Reds? Et si oui, qui pourrait y prétendre à ce Ballon d'Or? Serait-ce forcément un joueur de Liverpool ou de Tottenham, d'une équipe finaliste? Eh bien, là aussi, nous nous poserons la question avant de vous présenter nos cartons du jour. Le Café des Sports, les débats filmés sont donc ouverts.
Marc-Vivien Fouet, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24.
Franck, vous dansez pas aujourd'hui ?
Ah, j'ai beaucoup dansé au Bénin et en Côte d'Ivoire tout récemment, donc je suis un peu fatigué.
Ouais, je sais que vous êtes amateur de ce genre
absolument.
De rythme en général dans le studio.
C'est des beaux rythmes et puis j'admire le jeu de corps de Rémi.
Hein.
Il nous donne envie de le rejoindre.
Non, il faut savoir que quand cet album sortait, j'étais encore directeur de Radio Siantou au Cameroun, donc c'est moi qui avais fait la promotion de ce morceau parce que Racine Sagat, c'est lui qui a composé ce morceau pour Marc-Vivien Fouet, donc c'est un morceau que j'ai eu à découvrir dans la maquette et que je danse parce qu'on appelle ça l'obikuti, frappons la terre.
Non, bah alors, voilà, on l'a bien tout. Choisi hein, pour la récompense. Alors, qui sera le successeur de Karl Toko Ekambi? Vous vous en souvenez, l'attaquant camerounais qui avait été lauréat l'année dernière. Il jouait alors à Angers. Ils ne sont plus que 3 joueurs parmi les 11 sélectionnés et donc 3 en lice pour remporter ce prix Marc-Vivien Fouet 2019. Leurs noms, eh bien, on va les entendre à travers leurs prouesses puisque ce sont tous des buteurs de la Ligue 1.
Vers Romain Amouma, dans les airs c'est Rolando qui rayonne, Kazri qui hérite de ce ballon. Oh, la fusée! La fusée mise sur orbite par Wabi Kazri. Nicolas Pépé qui a pris le dessus face à Subotic et encore, c'est la deuxième accélération, un but! But de Nicolas Pépé!
Ah oui.
Qui a
lui tout seul a humilié la défense stéphanoise là.
À l'opposé,
il le voit. Yassar. Il a vu.
Il a vu.
Et voici les trois noms, c'était donc dans l'ordre alphabétique et nos auditeurs, suiveurs, qui désormais sont aussi spectateurs, eh bien, ont vu les visages de ces joueurs. Trois internationaux africains, dont trois buteurs de trois pays et de trois clubs différents. Wahbi Khazri, le Tunisien, joue à Saint-Etienne et il a déjà marqué 13 buts cette saison. Nicolas Pépé, l'Ivoirien de Lille, a lui inscrit 20 buts, il est juste derrière Kylian Mbappé. Et puis Ismaïla Sarr, le Sénégalais de Rennes, 6 buts, tout comme Saint-Maximin, le buteur de l'équipe de Nice, par exemple. Les portraits de ces joueurs sont résumés sur les pages Afrique Foot, des portraits signés Farid Achache que vous pouvez trouver dès à présent. Alejandro Valente, c'est évidemment dans le désordre, le podium sera connu un peu plus tard, dans une dizaine de jours.
Effectivement, le lundi 20 mai, c'est le jour qu'on a retenu pour annoncer les noms du vainqueur. Le championnat sera presque terminé, il restera une seule journée à disputer. Et c'est vrai que c'est une liste très riche et très prestigieuse. Il suffit de voir les joueurs qui restent un petit peu au pied du podium pour se rendre compte du mérite de ces trois finalistes, Youssef Attal, Max Alain Gradel, Bertrand Traoré, Lebo Motiba, Denis Bouanga, bref,
les Africains qui font les beaux jours du championnat de France à l'heure actuelle. Alors, en attendant et en maintenant le suspense, c'est un jury qui s'est exprimé et dont font d'ailleurs partie les invités du jour, n'est-ce pas ?
Absolument. Tous les consultants de Radio Foot, mais aussi des journalistes qui suivent régulièrement l'actualité de la Ligue 1 et du football africain, des anciens joueurs comme Joseph Antoine Bey, Habib Bey, ou encore Marc Libra, ou Eric Rabezandratana. Et puis, voilà, beaucoup de personnes qui nous paraissent aptes à pouvoir participer à ce choix. Pour ce jury 2019, 77 votants se sont exprimés, donc c'est quand même une large consultation.
Et Franck Simon a combien de voix? Parce qu'il est, il est journaliste, mais il est aussi ancien joueur, gardien de but émérite.
Il est toujours joueur, il n'est pas ancien joueur. Il ne vote qu'une fois de moins en moins. Alors, je vais pas vous demander quel est votre favori, mais je vais vous proposer un petit question-réponse à chacun de me présenter, disons, les raisons. Par exemple, vous, Rémi Ngono, si Wahbi Khazri devait remporter ce prix, si on devait lui attribuer, pour quelles raisons, selon vous, pourrait-il gagner le prix Marc-Vivien Foé, le Tunisien?
Parce que chaque fois, lorsqu'il n'a pas été là, on a vu tout de suite que son club, Saint-Etienne, ne parvenait pas à trouver ne serait-ce qu'une faille. Et lorsqu'il est revenu, on a quand même senti comment est-ce qu'il y avait cette présence-là. Du coup, on se dit que c'est le véritable arbre qui cache la forêt de Saint-Etienne. Et c'est pour cela que je peux dire également que, sur ce côté-là, on peut bien lui attribuer ce prix, parce que il a prouvé qu'il portait généreusement et surtout qu'il avait un mental d'être un leader.
Alors, ça serait pour le cas de Wahbi Khazri, qu'on verra a priori, s'il ne se passe rien de mal, et surtout s'il ne se blesse pas, eh bien, à la CAN en Égypte prochain. Si c'était Nicolas Pépé, Xavier Barré, pour quelle raison?
Il y en a tellement. Il y en a tellement. Nicolas Pépé, c'est des trois qui fallait choisir et qui sont aujourd'hui choisis. Il y en a deux que j'ai nommés. Il y en a un qui n'y est pas. Pépé, spontanément, je l'ai mis dans le trio en ce qui me concerne. Il fait une saison tellement flamboyante avec Lille. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la saison dernière, il était dans la difficulté dans un club qui luttait pour se maintenir. Et il est resté dans ce club-là. Et aujourd'hui, il est rentré dans une dimension totalement incroyable. Et surtout, dans un club qui est capable maintenant de faire la course en tête, enfin à la deuxième place dans le championnat de France, en tête puisqu'il y a le PSG qui est hors catégorie. Donc c'est assez phénoménal la façon dont il a su se transformer d'une certaine façon d'un guerrier qui luttait pour le maintien en un leader pour une équipe qui maintenant postule à la Ligue des Champions.
Alors voilà pour les arguments pour choisir ou voter pour Nicolas Pépé. Si vous votiez et si c'était Ismaïla Sarr qui gagnait, Franck Simon, que diriez-vous?
Bah, je dirais déjà qu'il a, il fait partie de cette belle équipe du Stade Rennais tout au long de la saison. Ça a été l'un de ses animateurs. Ça a été un passeur décisif. Il a, on sait qu'il s'est marqué des jolis buts et il a su allier ces deux aspects. Et moi, je trouve qu'il a vraiment franchi un cap avec toute cette équipe et sous la direction de l'entraîneur, hein, du nouvel entraîneur du Stade Rennais. Ils sont allés jusqu'au bout.
Julien Stéphan. Hein.
Julien Stéphan. Ah, ils sont allés au bout.
Ils ont gagné cette fameuse Coupe de France.
La Coupe de France où il a vraiment payé de sa personne. Ils sont allés aussi au bout d'une très belle aventure européenne en Ligue Europa, souvenez-vous, où il avait beaucoup compté, hein, il avait beaucoup rayonné. Et bah, pour ces raisons, je trouve que voilà, il a vraiment le profil d'un lauréat de ce prix Marc Bienfoy.
Suspense jusqu'au 20 mai, Alejandro Valente.
Absolument, le 20 mai, on dévoilera le nom du vainqueur.
Dans Afrique Midi ?
Absolument, Afrique Midi, et puis Radio Foot, évidemment, lui sera consacré.
Évidemment, et nous y reviendrons donc en attendant Suspense. La magie de Radio Foot, on change de rythme et on change de continent. Revolution, la révolution venue d'Angleterre. Et évidemment, des Beatles, vous les avez reconnus, car l'Europe du football, eh bien, a l'air d'être in love avec les clubs anglais. 4 clubs dans le vent, hein, sans faute logique. Peut-être des clubs anglais ou bien un trompe-l'œil, on va y venir. En tout cas, ce sont 4 clubs anglais qui disputeront et la finale de la Ligue des Champions et depuis hier soir, on le sait, la finale de la Ligue Europa. D'ailleurs, hier soir, Chelsea et Arsenal se sont qualifiés. Ils seront donc à Bakou au rendez-vous le 29 mai prochain. Chelsea s'est qualifié aux dépens du club allemand de Francfort, alors que Arsenal se défaisait de Valence à Valence. Écoutons justement ces qualifications.
Bien fait la casette pour Aubameyang. La possibilité, oui !
Pierre-Emerick Aubameyang has struck a mighty blow.
Encore une fois, le tandem qui fait des ravages, la casette avec Aubameyang.
He looks cool and focused. It's Hazard. It's Chelsea.
Et si c'était ça son cadeau d'adieu, Eden Hazard, un billet pour la finale de l'Europa League.
It will be Arsenal Chelsea.
Les Blues sont donc en finale. L'équipe entraînée par l'Italien Maurizio Sarri a un peu eu chaud hier soir face aux Allemands, donc les Allemands de Francfort qui, eh bien, ont bien résisté, surtout en deuxième mi-temps, score final 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Et donc, eh bien, des prolongations, tirs au but. Est-ce que c'est un symbole pour vous, Franck Simon, cette victoire venue des pieds d'Eden Hazard?
Un symbole, je sais pas si c'est un symbole. Ce qui me...
Le meilleur d'entre eux, dit-on souvent, celui qu'on voit aller jouer l'année prochaine au Real Madrid, c'est pour ça.
Il est appelé à...
Peut-être
d'autres...
son dernier match hier à Stamford Bridge.
Peut-être, mais symbole non, parce qu'un symbole, c'est comme si on l'extrayait en fait de cette saison. Or, je pense qu'il a quand même brillé de façon régulière avec son club. C'est un joueur important et on peut pas détacher les performances de son club des siennes. Elles sont étroitement liées. Quand il va moins bien, c'est une équipe qui va boiter. Mais ça veut pas dire qu'ils aient été flamboyants. Et c'est pour ça que voilà, dans ces cas-là, on est bien content d'avoir dans son effectif un garçon avec ce taux de créativité. C'est quelqu'un qui invente des choses. Et on savait qu'il était
le premier but notamment.
Ouais, il est capable de le faire alors en première ligue de façon régulière, mais là dans des moments un peu critiques, et ben ça fait du bien et puis ça leur permet d'accrocher cette place.
Oui, hein. Je trouve Franck Simon très modeste à l'égard des mérites d'Eden Hazard, parce que pour avoir commenté un certain nombre de matchs de Chelsea cette saison sur Canal+ Sport, je peux vous dire que sans lui, c'est plus du tout la même équipe. D'ailleurs, il y a eu un exemple, c'était à Cardiff en fin de saison. Ils étaient menés 1-0, c'était une équipe fantomatique. Sarri avait fait tourner, il avait laissé Hazard sur le banc. Et puis en fin de match, il a dû faire rentrer les joueurs décisifs. Et encore une fois, Hazard a fait basculer le match. Et il en a fait basculer plein comme ça cette saison.
Pas hier, parce qu'hier c'est plutôt Kepa, ou c'est plutôt David Luiz qui sont le héros d'un Chelsea qui était était en grande difficulté.
Mais Hazard, dès qu'il a le ballon, il le garde, il sait le garder, il essaye de trouver des solutions. Il est parfois un peu trop seul dans cette équipe. Et c'est là où moi j'étais déçu par la révolution annoncée de Maurizio Sarri à Chelsea. C'est que le fond de jeu, on espérait voir Naples à Londres, en fait, et on l'attend toujours. Et effectivement, cette équipe est beaucoup trop dépendante d'Eden Hazard. Ce qui fait que, bon, là, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, tant mieux pour eux. Il va probablement partir puisque c'est le deal, en fait, entre les dirigeants et Hazard, puisqu'il lui reste un an de contrat. Tu nous qualifies pour la Ligue des Champions et on te laisse partir, alors qu'ils sont interdits de recrutement. Il faut rappeler ça quand même. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La saison prochaine, je suis très, très inquiet, enfin, en tout cas, très interrogatif sur l'avenir de Chelsea sans Eden Hazard.
Mais c'est pour ça que je disais, c'était symbolique dans le sens où c'est quand même l'homme qui a porté cette équipe tout au long de l'année, même s'il y en a d'autres très bons, on le sait, dans ce groupe. Mais c'est vrai qu'hier, que ce soit lui qui revenait ce dernier tir au but, même si le gardien les a bien aidés en arrêtant avec les jambes, n'est-ce pas? Vous avez admiré le geste,
J'admire toujours. Parce que
c'était incroyable d'arrêter ce pénalty entre les jambes. Hein, c'est ça. Le troisième, si je ne me trompe pas. De toute façon,
enfin, je veux dire, quand un gardien au plus haut niveau arrête des tirs au but, moi je considère que c'est toujours un exploit. C'est toujours un exploit. Ça va tellement vite, vous savez. Ça va encore plus vite que lors des entraînements. Et le fait qu'il y ait eu cet exploit-là, ça situe aussi le niveau de compétitivité de ces gars-là, quoi.
Rémi, une qualification logique des Blues hier, même s'ils ont eu du mal?
Ce n'est pas logique, parce que logique veut dire maîtriser un match et véritablement dominer l'adversaire. Certes, au niveau de la possession, on retrouve Chelsea avec 60%, mais on voit quand même que Chelsea ne cadre qu'à peine 4 fois, alors que les autres cadrent quand même au bout de 90 minutes, ils cadrent 5 fois. Certes, on va voir que même au niveau des corners, c'est terriblement équilibré et curieusement, Francfort se crée un nombre incroyable d'occasions. Donc pour moi, je me dis que certes au match aller, on peut dire que dans les 20 dernières minutes quand Eden Hazard est entré, on a vu qu'il y avait un bon Chelsea. Mais là, Eden Hazard a été aligné avec Olivier Giroud, fantomatique. Eden Hazard, moi dans ce match, je ne lui donne pas la moyenne. Parce que, à part peut-être cette passe, cette façon d'aller sur le côté gauche avant de donner à Ruben la passe décisive, là, il n'y a rien. Donc, pour moi, il n'a pas été.
Vous savez, il faut que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent que la saison prochaine, Rémy Ngonou dira que du bien d'Eden Hazard puisqu'il jouera au Real Madrid.
Nous parlons d'un match.
C'est important.
Nous parlons d'un match. Je ne parle pas de la saison d'Eden Hazard. Il fait quand même 15 passes décisives. Mais depuis une certaine période, sachez-le, depuis une certaine période, c'est Kepa qui conduit bien cette équipe-là. Donc, pourquoi est-ce que je le dis, par exemple, que s'il ne fait pas ces deux arrêts-là, on n'est pas sûr qu'on parlerait d'Eden Hazard aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui que Eden Hazard, certes, c'est un très grand joueur, mais il n'a pas été flamboyant. Chelsea, c'est une bonne équipe, mais Francfort aurait pu également se qualifier.
C'est vrai, ils sont passés très 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 près de ne pas être en finale, Alejandro.
Absolument, on pensait que ça allait être une formalité, que c'est plutôt Arsenal qui allait avoir du mal à Valence, mais finalement Chelsea est l'équipe qui a le plus souffert. Et c'est vrai que cette séance de tirs au but était assez indécise jusqu'au bout, puisque à un moment donné, c'est Spilicueta qui a manqué sa première frappe, et Chelsea était un peu derrière Francfort, et il a fallu ces deux arrêts d'Kepa pour les tirer d'affaire.
C'est peut-être Trapp qui l'a arrêté, hein. C'est ce que dit un gardien, je pense, souviens. Joseph-Antoine Bell, c'est son refrain.
Je pense comme lui, effectivement.
Xavier, une dernière chose au sujet de cette qualification des Blues, peut-être que les Français seront derrière les Blues en finale de Ligue Europa.
Mais il y a un intérêt évident pour le troisième de Ligue 1.
On va dire.
En cas de qualification de Chelsea, en cas de victoire de Chelsea plutôt en finale à Bakou, eh bien, ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais comme ils sont déjà assurés d'être en Ligue des Champions via la Première Ligue, le championnat d'Angleterre, du coup, ça décalerait les qualifications automatiques pour la phase de poule et ce serait le troisième du championnat de France qui en bénéficierait, donc soit Lyon, soit Saint-Etienne. Donc effectivement, l'intérêt des Français est derrière Chelsea.
C'est rare quand même.
même.
Hein. C'est rare ces passes décisives des Anglais aux Français quand même. Hein. Bah, notre histoire nous a quand même tellement séparés.
Il y a quelques Français aussi quand même dans l'effectif de Chelsea, même si N'Golo Kanté était absent hier en raison d'une blessure, pas sûr qu'il sera rétabli,
C'est pas encore fait. Hein. Chelsea n'a pas gagné la finale.
Oui. Non, on se projettera sur les finales un petit peu plus tard, mais revenons sur les qualifiés. Il y a aussi donc il y aura ces Gunners en face, des Gunners qui n'ont désormais plus de chance de disputer la Ligue des Champions. Hein. Ils sont revenus au temps d'Arsène Wenger, nous dirait Rémi Gonneau, n'est-ce pas Rémi? En tout cas, ils ont facilement remporté leur match hier à Valence, victoire 4-2 avec un triplé de la Panthère gabonaise, un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but du Français Alexandre Lacazette. Un duo qui marche très bien d'ailleurs. Ils ont inscrit les 7 buts des demi-finales. La victoire a valu un tweet de l'ancien joueur lyonnais. Cet ancien joueur lyonnais, Lacazette, qui dit « Let's go to the final to Baku ». Alors évidemment, il donne rendez-vous à la finale. Il y a une photo que peuvent voir donc nos spectateurs qui aujourd'hui nous suivent sur ce Facebook Live. En tout cas, Lacazette, eh bien, c'est un gunner qui a soif de titre. Écoutons-le.
On a surtout une chance de gagner un trophée cette saison. Je pense qu'on a été régulier en Europa League et... Tant mieux pour nous, on a su faire le match quasi parfait ce soir, même si on a encaissé deux buts, mais c'est déjà bien, on a pu marquer. L'année dernière aussi, je suis allé jusqu'en demi-finale et j'ai échoué aux portes de la finale, mais là, tant mieux, je vais en finale, j'espère que je vais remporter ce trophée.
Lacazette, chantée par des supporters anglais, n'est-ce pas? Ça vous fait sourire. Hein, Lacazette dans les filets, à droite, à gauche. Lacazette, c'est de la dynamite. Alors, c'est vrai que ces joueurs, hier, c'était le duo qu'on attendait. Ils ont été au rendez-vous. Lacazette a marqué, lui aussi, son but. Xavier Barret, les Gunners, finalement, en finale de la Ligue Europa, ce serait pour eux une manière de raccrocher la Ligue des Champions.
C'est leur dernière chance. Enfin, ils ont une petite chance mathématique pour lors de la dernière journée de Première Ligue. Il faudrait qu'ils gagnent 5-0 lors du dernier match, pendant que Tottenham perde 4-0. Et à ce moment-là, ils pourraient coiffer Tottenham sur le poteau pour la quatrième place. Mais c'est quand même très hypothétique. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux assurer. Il fallait assurer la place en finale de l'Europa League. Et maintenant, il faut la gagner pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est quand même un pas en avant pour Arsenal, il faut le dire, par rapport à la saison dernière où ils s'étaient arrêtés en demi-finale face à l'Atlético de Madrid, le futur vainqueur. Donc là, ils sont en finale. Maintenant, on va voir s'ils arrivent à la gagner, parce que ça fait quand même très longtemps qu'Arsenal n'a pas gagné de finale continentale. Je crois que ça remonte à 1994. Donc ça fait une éternité. C'est pas faute d'avoir essayé, mais là ça permettrait à Unai Emery de repartir la saison prochaine avec une confiance renforcée, parce qu'il a quand même été assez fragilisé par les derniers résultats, notamment en championnat.
Rémi Bruno, c'est votre sujet préféré, je le sais, Arsenal. C'est même aussi... avec Unai Emery.
Ah mais bien sûr, vous savez très bien que aujourd'hui on parle de Lacazette, on parle d'Aubameyang, mais disons quand même que Arsène Wenger avait ces joueurs-là, et on a vu qu'aujourd'hui que Arsenal est encore à la dernière journée à la course pour la Ligue des Champions et est en finale. Donc Xavier Barré doit au moins.
Donc c'était pas la faute d'Arsène Wenger.
Non, mais aujourd'hui, vous savez que même Aubameyang aujourd'hui se sent beaucoup plus à l'aise, parce que quand même aujourd'hui il est presque dans les mêmes statistiques qu'avec Dortmund. Il est actuellement à 29 buts toutes compétitions confondues, c'est-à-dire que au niveau d'Angleterre, il vient juste derrière Agüero qui a 31 buts. C'est exceptionnel. Lorsque vous voyez aujourd'hui comment est-ce que Lacazette s'épanouit, et vous vous dites, mais comment est-ce que cette équipe...
Ensemble, surtout.
Oui,
ensemble.
Comment est-ce que Arsène Wenger ne parvenait pas à mettre ses gars pour pouvoir obtenir un résultat? Donc, aujourd'hui...
Mais je crois qu'il les a plus fait jouer ensemble.
Les résultats sont là, Xavier Barré. Les résultats sont là, parce que généralement, on me dit que non, j'aime critiquer Arsenal. Je disais toujours, c'est un problème d'Arsène Wenger et non un problème de joueur. Je disais toujours que s'il y a un bon manager qui revient avec un 109, qui revient insuffler autre chose, ça va donner beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est venu avec du 109, on est venu avec quelqu'un qui a d'autres nouvelles idées, et du coup, Aubameyang, Lacazette, tout le monde s'épanouit. Il y a un proverbe africain qui est clair. Lorsque les moutons tombent dans un ravin, la faute vient du berger.
Moins. Enfin, le fait est que pour le moment, Arsenal effectivement est en finale de l'Europa League. Comme disait El Jefe, ils l'ont pas gagné. Les supporters évidemment des Gunners souhaitent qu'ils le gagnent. Sinon, si on regarde le championnat, bah ils sont au même niveau qu'avec Arsène Wenger la saison dernière. Donc les progrès sont pas flagrants, mais s'il y a cette victoire en Europa League, effectivement, Unai Emery sera soulagé.
Alejandro.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que effectivement Arsenal n'a pas fait des progrès conséquents, mais qu'il finit bien cette saison. Et là, il y aura pratiquement 2 semaines et demie pour préparer cette finale. Et il faut qu'il ne se rate pas. Et je pense que l'expérience d'Unai Emery dans ce genre de situation peut s'avérer précieuse. Moi, je mettrais plutôt une petite pièce pour Arsenal.
Est-ce qu'on peut dire peut-être que la chance des Gunners, Franck Simon, c'est justement que Unai Emery, c'est le spécialiste, on va pas le réduire à ça, mais c'est le spécialiste de la Ligue Europa.
C'est pas une chance, mais c'est un atout forcément. Puisque
il a déjà gagné 3.
Ouais, donc ça compte d'avoir déjà ce vécu dans d'autres clubs, d'avoir l'habitude de disputer cette compétition. Peut-être aussi que voilà, ils maîtrisent les leviers qui sont favorables à faire un beau parcours. Mais il a aussi des joueurs de qualité. Moi, j'ai pas commenté beaucoup de matchs d'Arsenal, mais j'ai par exemple découvert n'est pas le mot, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voir un garçon comme Matteo Guendouzi. Qu'on a encore aperçu un jeune français hier.
Hier, il est rentré en fin de match.
Voilà, c'est le genre de
joueur que j'aime. On dirait David Luiz, mais
oui, mais ouais, puis peut-être avec un
acheté
de...
à 3,5 millions.
Ouais, mais quand on voit son rendement, c'est je pense que voilà, l'avenir est là. Vous avez aussi ce que disait un petit peu tout à l'heure Rémi en évoquant Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un autre homme. C'est un autre homme sous le maillot des Gunners, parce que malheureusement en sélection, on sait ce qu'il est advenu de ses prestations.
Il finissait aussi parmi les.
Mais
les
il a pas fait. La saison dernière, c'était pas mal. Mais c'était pas mal la saison dernière. Ouais. Hein. Il fait une demi-saison en Allemagne. Il arrive chez les Gunners où il était au rythme d'un but un match quasiment.
Il arrive pendant l'hiver avec Mkhitaryan. D'ailleurs,
Dortmund, il avait déjà 19 buts.
Et effectivement, mais forcément, quand vous arrivez en milieu de saison, c'est très différent.
C'est plus compliqué, il faut s'adapter, un nouveau contexte, un nouvel effectif.
Maintenant, la saison d'Arsenal, elle est quand même un peu en deçà de ce qu'on espérait. Le fait qu'ils soient pas dans le top 4.
C'est une équipe qui reste irrégulière quand même.
Ben, surtout sur cette fin de saison, ils ont quand même eu là 3 revers
en
championnat.
Parce qu'il y a eu un moment où ils étaient 3e, 4e.
C'est fragile.
C'est d'autant plus regrettable, c'est que c'est eux qui avaient le meilleur calendrier pour finir la saison. Ils n'avaient pas de confrontation directe avec les équipes du top 6, donc leurs rivaux directs pour les qualifications européennes. C'est pour ça qu'on disait qu'Arsenal, a priori, était le mieux placé pour
être 3e. C'est pas une question de talent, hein. On est d'accord, c'est pas une question de talent.
Attends, juste, ils avaient le calendrier le plus dégagé, et là, ils se sont effondrés face à des équipes donc de deuxième partie de tableau. Donc, c'est assez incompréhensible. Donc là, pour le moment, cette qualification finale de l'Europa League sauve un peu la face, mais globalement, c'est pas une saison satisfaisante.
Si c'est pas un manque,
c'est dans la tête. C'est forcément la tête. Xavier, vous donnez l'exemple de ces matchs qu'ils ont lâchés contre des équipes qui sont à la lutte, qui sont derrière eux en championnat, des équipes qui jouent au mental, et en Angleterre, on sait ce que ça veut dire, hein. Et du coup, t'en viens presque à te demander s'ils choisissent pas leur compétition. Voilà, c'est aussi ça, quoi. Il leur manque un truc mentalement. Oui. C'est pas le talent. Le talent, il est là. Il est dans différentes lignes.
Moi, je les voyais devant Chelsea au classement et finalement, ils finissent derrière.
C'est pas le cas. Ouais. Ouais.
Ils ont perdu Crystal Palace, Wolves et Leicester. Ouais, et trois défaites d'affilée. Et là, ça les a complètement plombés. Alors qu'effectivement, ils auraient dû finir dans le top 4.
Ouais, ils décrocheront peut-être encore une Ligue Europa.
Quand vous dites que vous les voyez devant Chelsea. Mais attendez.
Mais vous
parlez quand même d'une équipe qui avait Eden Hazard, qui avait un champion du monde comme N'Golo Kanté. Vous parlez quand même d'une équipe qui était on nous a annoncé Sarri également, qui devait faire que Chelsea puisse devenir champion, mais Chelsea a également beaucoup déçu. Donc aujourd'hui, moi je trouve que pour une équipe qui était totalement comateuse, pour une équipe qui était brinque-ballante, où il a fallu des coups de machette pour que Arsène Wenger puisse prendre sa retraite, eh bien, pour ces gars-là, au moins, je trouve quand même que c'est une guérison miraculeuse. C'est des gars qui étaient malades. La maladie vient au galop et s'en va à petits pas. Donc aujourd'hui, Arsenal est en train de ressusciter du cercueil d'où Arsène Wenger les avait mis.
Ils sont à peu près à la même place, mais on va clore ce sujet.
Sinon, on va faire toute l'heure et puis déborder.
Oui, je pense que ça pourrait déborder en dehors de l'heure. La révolution, alors, est-elle si forte du côté du football anglais? En tout cas, c'est sûr, elle est historique. Et notre ami et consultant Bruno Constant l'a tweeté hier. Il a tweeté quelque chose de très intéressant et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus puisque 4 clubs anglais vont donc disputer ces 2 finales. Il remarquait quand même qu'un seul club de ces 4 appartient à des Anglais, ou à des capitaux anglais, en l'occurrence c'est le club de Tottenham. Il n'y a aucun entraîneur anglais à la tête de ces équipes. Il y en a un qui est allemand, un qui est argentin, un italien et un espagnol. Et ensuite, 8 joueurs seulement sur 44 sont anglais au coup d'envoi des demi-finales. Alors, il ajoute quand même Bruno Constant, ils sont de moins en moins anglais les clubs, mais l'âme reste, ou comme vous disiez Franck, le mental. Alejandro Valente, est-ce que pour autant on peut dire c'est la victoire des Anglais?
C'est un peu la victoire des Anglais, je dirais, parce que quand même le public qui est derrière ces équipes est anglais. Et c'est un élément qui me paraît quand même très important.
Qui donne le mental.
Ça donne le mental, ça donne le ton. Ça permet tout au long de la saison quand même de porter les équipes vers les limites de leur capacité. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans ces demi-finales, souvent des équipes qui techniquement n'étaient pas les plus fortes, mais qui grâce à leur volonté, à leur confiance, à leur impact physique, ont réussi quand même à surmonter des situations parfois très compliquées et fini par s'imposer. Donc dans ce contexte-là, oui, le fond de ces succès est plutôt anglais.
Ça reste des clubs anglais pour vous, Franck Simon, même si évidemment Liverpool est bien en Angleterre ou Londres est bien en Angleterre aussi.
L'enveloppe et l'âme sont anglaises. Ça, c'est pas contestable, ce que vient d'expliquer Alejandro. Mais pour le reste, pour moi, c'est des équipes, c'est des world companies. Hein. C'est des équipes.
Exactement.
C'est des équipes qui ont été bâties avec des capitaux étrangers.
Dans l'équipe d'Arsenal, il y a un seul anglais.
Ouais.
Au départ.
Voilà, bâties avec des capitaux étrangers, des joueurs étrangers, beaucoup de joueurs européens, mais aussi beaucoup de Sud-Américains. Tottenham, sur ce match, on l'a vu, doit beaucoup un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Moura, un Brésilien. Donc voilà, c'est aussi ça, ce football anglais, cette première ligue qu'on apprécie aussi, hein, attention. Mais pour moi, c'est surtout voilà ce qui reste de c'est l'âme et l'enveloppe. Quand on parle de Liverpool, évidemment, on a l'histoire de Liverpool, l'histoire européenne, l'histoire anglaise qu'on a en tête. Mais pour le reste, aujourd'hui, si vous enlevez les supporters, vous pouvez
encore Liverpool, il y a quelques joueurs anglais.
Ouais, mais tu peux transposer ces effectifs ailleurs, en vérité. Mais s'ils sont venus, en revanche. Si ces joueurs étrangers sont venus, c'est justement en raison,
pas seulement des
conditions salariales, mais c'est évident, mais c'est aussi parce que voilà, un stade, t'as une âme, t'as un public, t'as une histoire, et plus qu'ailleurs, le football anglais continue de faire rêver.
Ouais,
c'est les bonnes raisons.
Xavier, il continue de faire rêver, mais est-ce qu'on peut dire alors, grâce à la qualification de ces 4 clubs, la première ligue est le meilleur championnat d'Europe?
Moi, ça fait longtemps que je le dis, donc.
Oui, non, mais c'était contesté avec l'Espagne. Ces derniers temps, c'était bien les clubs espagnols qui se retrouvaient.
C'était 2 clubs espagnols, voire 3 avec l'Atlético. Mais sinon, les autres clubs espagnols, on les voit jamais.
Non, il y avait Séville qui a remporté 3.
Oui, mais l'Europa League, pas au niveau de la Ligue des Champions.
Non, mais là, on parle de 4 clubs aussi en Ligue Europa.
La Ligue des Champions était, n'oublions pas que à la fin des années 2010, enfin, entre la première décennie, là, déjà, Liverpool, Chelsea, Manchester United, trustaient les places en demi-finale de la Ligue des Champions. On avait déjà eu une finale 100% anglaise en 2008. Donc, et si les clubs anglais aujourd'hui jouent l'Europa League à fond, c'est justement parce qu'il y a la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions, puisqu'ils n'ont que 4 places et qu'ils sont 6 candidats.
Voilà,
donc, Manchester United avait utilisé ce biais-là il y a 2 saisons. Cette fois-ci, ce sera soit Arsenal, pas Chelsea, puisqu'ils finiront dans le Big Four. Mais il y a vraiment, de la part des clubs anglais aujourd'hui, une supériorité qui est liée aux capitaux, à l'argent, aux effectifs qui sont pléthoriques. Ils ont des effectifs de 40-50 joueurs, ils en prêtent d'ailleurs dans l'Europe entière, et à l'arrivée, effectivement, il y a cette culture de la gagne qui est effectivement, elle, héritée typiquement anglaise, et quand les joueurs étrangers s'en imprègnent, vous avez des équipes plus performantes.
Écoutons un entraîneur de ces clubs, alors lui, un joueur historique on va dire d'Angleterre, mais qui en même temps n'est pas anglais, c'est l'entraîneur de Manchester United. Ce matin, il est revenu sur cette grande prouesse, on va dire, des clubs anglais, Ole Gunnar Solskjaer, qui confirme, les temps changent.
Cette performance en dit beaucoup sur le niveau du championnat dans lequel nous sommes. Ce n'est plus comme à mon époque. Quand j'étais joueur, il y avait nous et Arsenal, et puis Chelsea est arrivé. Maintenant, c'est une compétition très relevée et nous luttons avec les meilleures équipes du monde. C'est dire le challenge qui nous attend pour retrouver notre place.
Le challenge qui les attend, ils ne seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont, même s'ils ont éliminé le Paris Saint-Germain, ils sont arrêtés en quart de finale. Rémi, Manchester United. Mais est-ce que cette difficulté d'ailleurs entre clubs anglais reflète finalement la difficulté aussi au niveau européen pour les clubs anglais ?
Pour moi, le parcours des clubs anglais, c'est une affaire des circonstances. Et ce championnat qu'on est en train de me vanter comme étant le meilleur du monde, j'ai dit, je m'y oppose. Et pourquoi ? Parce que lorsque je me rends compte que ces équipes qu'on est en train de féliciter aujourd'hui, on regarde par exemple une équipe comme Liverpool. Liverpool, par exemple, était dans le même groupe que le Paris Saint-Germain. Liverpool a bel et bien été battu par le Paris Saint-Germain. Liverpool passe en face de poule
au Parc des Princes.
Au Parc des Princes. Oui, mais Liverpool passe derrière le Paris Saint-Germain avec
presque
9
tous
points.
Tous ces clubs étaient deuxième de leur
9 points Tottenham et aussi. Au goal average. Quand on me parle de Tottenham, Tottenham était dans la poule du Barça. Et Tottenham avait 1 point lorsque le Barça avait 7. Tottenham passe avec 8 points. Je vous rappelle que Lyon avait 9 points. C'est 8 points. Et Tottenham passe sur un goal average. Ce qui veut dire que Tottenham aurait été éliminé. Tout comme Liverpool aurait été éliminé, on n'aurait jamais eu cette finale.
Oui,
donc,
mais
première
ça,
des choses, on y va. Donc, vous allez
c'est
me dire, Manchester City était avec Lyon dans la même poule. Manchester City.
Vous allez faire l'histoire de.
Attendez.
Rémi, dites-nous ça. Attendez.
C'est l'heure d'émission. Rémi, attendez.
Quand vous parlez, vous ne voulez jamais. Parce que tout de suite, là,
je dis des choses intéressantes.
Attendez. C'est pas toi qui gère l'émission.
Rémi.
Voilà, c'est comme ça.
Rémi, dites-nous alors.
Donc, j'ai dit que si Lyon bat Manchester City, prend 4 points, ne me dites pas qu'il domine. Je regarde que le championnat anglais existe depuis 1888-131 ans. Combien de clubs anglais gagnent
anglais,
eh bien, on n'a que Manchester United.
Non,
on a
encore la question, c'était au jour d'aujourd'hui.
Au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des accidents pour
d'accord.
les autres.
Okay.
Par exemple, Real Madrid revient de 3 Ligues des Champions. En ce temps, un club anglais va remporter une Ligue des Champions pour le 21e siècle. Il va encore remporter au 23e siècle. Mais attendez.
Rémi n'est pas d'accord. Vous avez tous compris. Vous avez dû le voir aussi sur notre Facebook Live. Il s'est mis en colère, Rémi. Bon, en tout cas, on verra bien pour ces clubs anglais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 4 clubs qui se retrouvent en finale. Alors, 4 clubs, Alejandro Valente. Mais quand on préparait l'émission, on s'est dit, il y a 4 clubs, mais il n'y a pas le meilleur. En tout cas, celui qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire Manchester City, champion sortant d'Angleterre, et qui pourrait quand même, ce week-end, remporter une nouvelle couronne. Les Citizens iront jouer à Brighton, dimanche à 14h en temps universel, alors que Liverpool accueillera sur sa pelouse Wolverhampton. Un point les sépare toujours, ces deux équipes. Est-ce qu'un coup de théâtre peut être envisagé ou, puisque cette année, c'est une année de coups de théâtre un peu partout, ou est-ce que la logique va être respectée que les hommes de Pep Guardiola remporteront le championnat ?
C'est toujours possible, mais on a du mal à imaginer quand même que Manchester City laisse échapper ce titre à ce moment-là. Alors que Brighton n'a plus rien à espérer ni à craindre dès cette fin de saison. Donc, je n'y crois pas vraiment, non.
Non. Franck ?
Je pense effectivement que voilà le chemin est tracé. J'aurai forcément un œil dessus parce que je serai consultant sur cette rencontre dimanche. Donc forcément je repenserai à tout ce qu'on est en train d'évoquer. Mais
vous pensez qu'ils peuvent s'écrouler et que Liverpool serait là ou si Liverpool
si près,
peut faiblir
si près du but si près du but.
Non.
Non.
Tout
est possible, c'est vrai, vous avez raison. Cette semaine, on a été la preuve incontestable. Tout est possible.
Même pour eux, on se souvient quand même de ce match épique face à Tottenham.
Ouais, avec encore des circonstances aggravantes, je dirais, au niveau de l'arbitrage. On va revenir sur ce débat. Mais non, je pense qu'ils vont faire le job, comme on dit en Angleterre.
Xavier?
Oui, mais Et Manchester City, j'aurai la chance de commenter ce match effectivement sur Canal Plus Sport dimanche avec Franck. Eh bien, Manchester City a eu l'occasion de rater les dernières marches. Et à chaque fois, ils sont passés. Ric-rac, hein, ils ont gagné 1-0 les deux derniers matchs, mais
contre
ils ont
Leicester,
gagné.
Notamment,
Leicester, qui est une équipe en forme, qui avait passé 3-0 à Arsenal, ils ont gagné. Donc là, à Brighton, qui est le premier non relégable, qui est le maintien assuré. Franchement, ils vont pas laisser filer ce titre. Donc surtout que. Vu qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, et Raymond Gonod nous l'a bien fait comprendre lors des précédentes émissions, pour eux c'est très important d'enchaîner avec un deuxième titre consécutif, et ce qui serait historique parce que c'est très rare en Angleterre, c'est plus arrivé depuis Manchester United justement. Donc non, ils laisseront pas filer cette occasion.
Rémi, qui sera champion d'Angleterre ce week-end, votre boule de cristal?
Mon souhait aurait été la meilleure équipe d'Angleterre. La meilleure équipe d'Angleterre, c'est celle qui n'a eu qu'une seule défaite, c'est-à-dire que Liverpool. Donc aujourd'hui, c'est vrai que City qu'on nous présentait comme une somptueuse équipe, j'ai quand même vu ces matchs, c'est vrai que Kompany marque un but que lui-même il ne s'attendait pas vraiment à ces buts-là, et d'ailleurs il a failli sortir à plein parce qu'il croyait que le match était terminé.
Liverpool a gagné aussi des matchs en fin de rencontre.
Je peux vous dire que Liverpool au moins c'est 20 matchs d'affilée par exemple où ça, et au-delà de ça c'est la meilleure défense actuellement en première ligue. C'est une équipe qui est cohérente, c'est une équipe qui est dangereuse. Dommage que cette équipe-là ne remporte pas, mais bon.
Oui, mais ils ont eu aussi un coup de mou au mauvais moment.
Annie,
c'est
important de dire aux auditeurs et aux internautes que c'est, voilà ce qui nous différencie avec Raymond Gonod. Raymond Gonod dit Liverpool mérite de gagner parce qu'ils ont eu une défaite.
Ouais.
Voilà. Mais
c'est
Manchester,
concret.
Mais Manchester City vient d'enchaîner 13 victoires d'affilée.
Et combien de défaites?
Et à l'arrivée.
Combien de défaites?
À l'arrivée, où elle est la différence?
Trois défaites.
Elle est la différence que Pep Guardiola, il va toujours chercher la victoire. Là où Liverpool a enchaîné 4 résultats nuls en février. Mm-hmm. Du coup, la victoire est à 3 points et le nul à 1 point, eh bien, ils ont peut-être qu'une seule défaite, mais ils ont moins de points. Ils auront moins de points à l'arrivée que Manchester City.
Ça, c'est un calcul
et c'est
évident.
Normal parce que Manchester City vont toujours chercher la victoire, même si parfois ils concèdent plus de défaites. Donc moi, je préfère ce football offensif et je crois que parmi nos internautes, il y a une majorité de gens
parce que Liverpool, c'est pas offensif.
Mais parce que Liverpool, ils se sont contentés de résultats nuls.
Non,
là où Manchester City est allé chercher la victoire.
Là, on n'est pas d'accord avec vous quand même. Ah non,
Liverpool,
c'est pas
bon. Le résultat, c'est que Guardiola, il va toujours chercher la victoire et il l'obtient pas toujours.
Et Jürgen Klopp, non.
Alors que Jürgen Klopp, ces 4 résultats nuls font qu'ils ne sont pas champions. Les résultats sont là.
Partager nos amis. Que diriez-vous pour terminer le sujet?
De toute façon, je ne suis pas d'accord avec Xavier. C'est une lecture partiale là, de ce qui se passe.
Ben parce que Raymond Gonod, c'est des lectures impartiales.
Ben, tu ne m'as pas donné l'occasion.
Laissez parler, Franck Simon. On désigne un arbitre.
Je te dis pas la tête du médiateur.
Donc Franck.
Non, mais l'analyse de Xavier, elle est intéressante sur ces séries. Mm-hmm. Quand tu fais une longue série de points, c'est mathématique.
Oui.
Voilà, tu vois. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il soit plus offensif. On n'est pas là pour décerner une palme à l'offensive. Il n'empêche, Liverpool a cédé des points là où il ne le fallait pas.
Un petit mot encore, alors que vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live. En France, 36e journée de Ligue 1 qui pourrait, elle, lever tout suspense quant à la 3e place, puisque la 2e place semble bien promise à Lille. On aura un Olympico, une confrontation olympique de Marseille-Olympique Lyonnais dans le chaud stade du Vélodrome. À la 6e journée, c'était en septembre dernier, les Lyonnais l'avaient emporté 4-2 à Lyon. Alejandro Valente, l'OL doit gagner, n'a pas trop de choix s'ils veulent coiffer au poteau Saint-Etienne qui les talonne.
Effectivement, pendant des semaines, ils rêvaient de la 2e place. Malheureusement pour eux, dimanche, avec le match nul concédé face à Lille, cette 2e place est pratiquement envolée. Et du coup, ils voient aujourd'hui arriver dans leur rétroviseur cette équipe des Saint-Etienne qui menace cette 3e place et qui pourrait carrément menacer tous les projets lyonnais pour la saison prochaine. Donc évidemment, c'est un match hyper important.
Un petit mot sur ce match, Franck?
C'est pas le mot de la fin, mais de dire je suis plutôt inquiet pour cet Olympique lyonnais que je trouve déliquescent.
Oui. Voilà. Tout comme on a vu cette fin de saison. Et on y reviendra lundi à la Ligue 1 et au podium qui sera évidemment qui se profilera. Terminons par une question avant notre session carton. Carton que vous pourrez donc voir en Facebook Live. Avec cette question, je me tourne vers Alejandro Valente parce que il s'attend à une question qui va être difficile. Est-ce que Messi, Alejandro Valente, pourrait remporter le Ballon d'Or cette saison ? Alors, apparemment, on a un petit suspense. Du moins, c'est ce qu'on croit.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Messi, oh my goodness !
Qu'est-ce qu'il est beau ce coup franc !
Un petit tour de magie, peut-être ?
Alors, on croyait qu'il y avait un boulevard pour Léo Messi, Alejandro Valente, vers le Ballon d'Or. Ça lui aurait permis d'en gagner 6, après surtout l'élimination de la Juventus de Turin et en gros l'élimination de Cristiano Ronaldo, en tout cas dans la compétition européenne. Patatras, en demi-finale, le Barça est éliminé clairement par les Reds. Est-ce qu'il est pour autant sorti de la liste du Ballon d'Or pour vous ?
Ah, pas du tout. Pour moi, ça reste quand même les favoris numéro 1. Figurez-vous qu'il est champion d'Espagne, meilleur buteur de la Liga espagnole, il va probablement gagner la Coupe d'Espagne, meilleur buteur de la Ligue des Champions, soulier d'or sans doute à la fin de la saison européenne, donc demi-finaliste quand même de la Ligue des Champions où il a quand même brillé lors du match aller et où il a été le meilleur Barcelonais au match retour. Je pense qu'il n'y a pas du tout on est au début du mois de mai, donc l'année est encore longue, mais pour moi, j'ai du mal à imaginer qui d'autre pourrait y prétendre. Les deux finalistes de cette Ligue des Champions, c'est des équipes qui n'ont rien remporté d'autre, qui ne seront même pas championnes de leur pays. Donc, pour moi, et qui basent leur qualité plutôt sur l'impact physique et sur,
c'est pour ça qu'on
et sur
des qualités pas. Comme quand ça. Vous donc, voilà. Quand vous mentez, vous évitez de me regarder. Comment vous pouvez dire
je vous regarde.
C'est pas possible. Mais Messi exclut même des toits.
Vous voyez qui à la place?
Moi, je peux voir même encore Sadio Mané. Je peux vous dire ça. Attendez, on y va sur des grands matchs et comme exactement aussi vous avez vu Modric qui est venu prendre la coupe.
Je pense que beaucoup de gens se demandent pourquoi il a gagné.
J'ai dit aujourd'hui. On a vu Messi. Vous avez dit meilleur joueur. J'ai vu toutes les notes d'Espagne et même de l'équipe. Il a 3. Le dernier s'appelle bel et bien. Le dernier s'appelle Coutinho. Et en Espagne, Messi est noté 2. Donc, lorsque vous vous rendez compte que Messi, pour ce match que vous êtes en train de dire là, c'est lui qui bat le Barça. À la 16e minute, il rate une occasion qu'on ne peut pas rater. Et le pire, c'est quoi? Celui qui a perdu le plus de ballons, c'est Jordi Alba, suivi de Messi. 19 ballons perdus, comme l'année dernière exactement lorsque la Roma était éliminée. Et de ce quoi Messi a dit, je viens vous offrir la Ligue des Champions. Il n'a pas ouvert, on n'est pas ouvert cette Ligue des Champions dont il a menti. Il y a un proverbe africain qui dit que il faut toujours forger les épées avant de se déclarer vainqueur à la guerre.
Franck Simon et Xavier Barré, je vous demanderai votre avis la prochaine fois parce qu'on a notre session carton.
Vaut mieux effectivement la prochaine fois parce que là, ça m'énerve. Là. Mal parler du Ballon d'Or France Football comme je l'entends sur le plateau, je suis très déçu. Heureusement, il n'y en a aucun d'entre nous qui votons sur ce Ballon d'Or. Laissez les représentants des pays voter. Ils ont encore,
ils ont encore
4 ou 5 mois pour réfléchir. Tous les arguments sont bons à entendre, mais respectons quand même l'institution du Ballon d'Or France Football.
Ça, on la respecte parce qu'on en parle plus que d'autres trophées dans Radio Foot. Allez,
non, mais bon, faut arrêter de jouer du pipeau
rapidement
un peu.
Les cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons en quelques secondes. La couleur est à qui, Xavier?
Oui, vert à Chambly. Petit club de la banlieue parisienne, la grande banlieue parisienne, qui va monter en Ligue 2 l'année de son 30e anniversaire. C'est totalement incroyable.
Franck Simon.
Carton vert à Yaya Touré qui a annoncé sa retraite internationale par la voix de son agent.
Alejandro?
Carton vert à l'Avare, parce que après ces dernières années où la Ligue des Champions avait été marquée par des scandales d'arbitrage, enfin grâce à l'Avare, cette année au moins, on a une Ligue des Champions qui se déroule sans polémique et sans scandale.
Rémi?
Carton vert adressé à Joël Matip, à Ghislain Japaké, constate quand même que c'est un très grand défenseur qui a eu toutes les difficultés, qui est venu de chaque 0-4 pratiquement pour rien, mais qui a fini par s'imposer.
C'est la fin de ce Radio Foot, le carton de Radio Foot. C'est un carton vert à toute notre équipe du Facebook Live, puisque vous nous avez suivis. Vous pourrez nous revoir d'ailleurs. Alors, Laure Tamperville, il y a beaucoup de monde, hein. Julien Magoharou, Cyril Etienne. Et puis à la réalisation, il y avait David Brockway. Merci aussi à David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno. Et on vous dit à lundi.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.